12 interviews, 2 jours, un festival, sais-tu? Voilà! Vous êtes en partance pour Sais-tu avec les artistes et régisseurs Coralie Goncalves et Rémi Gobert.
Ben on se met tous les trois devant?
Ouais.
Ça vous va?
Parfois en binôme, parfois seul, costumé ou dans un véhicule décoré, je viens vous chercher à la gare de Quimper pour vous emmener dans la ferme de Morgane Coidou à Évian.
Vous pouvez juste faire la 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 la.
La 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 la.
La 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 la.
On me dit tout le temps que je parle fort, alors j'imagine
oui,
que
hein,
je parle fort.
Je baisse un peu le micro.
Pour les tests, elle parle pas fort et pour après, elle parle
fort. Toi, tu parles dans ta moustache.
Assis ou assise sur une banquette de 3, la navette démarre. À l'avant, les derniers réglages techniques se font, Coralie et Rémi se chamaillent. Vous, vous écoutez d'une oreille distraite, mais surtout, vous observez la campagne qui défile, le vert, marron et jaune. Un tracteur nous ralentit. Êtes-vous déjà venu à Sais-tu, je vous demande. Connaissez-vous des artistes du festival? En tout cas, bienvenue. Sais-tu, c'est faire collectif pour un temps. Organisateurs, artistes, bénévoles viennent quelques jours en amont du festival. Ils travaillent, mangent, campent et vivent ensemble, chacun à leur rythme, à celui du bruit des animaux et de la météo. Nous sommes samedi midi, une nouvelle phase commence. On sent l'excitation de l'avant-spectacle. Les coulisses se referment et place aux propositions artistiques. Vous allez voir, on va passer un moment étrangement agréable. La nuit, il fera froid, le midi, on mangera bien. Et surtout, on verra plein de choses dépaysantes et réconfortantes. Ah ! Mais avant de sortir se mêler à la foule, écoutons Coralie et Rémi qui nous parlent d'eux et de leur lien à Sais-tu.
Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter ? Tu commences ?
Ouais, je m'appelle Rémi, j'ai fait les Beaux-Arts de Quimper. Et après ça, j'ai continué à assister des artistes, surtout des sculpteurs. Et voilà, je fais de l'assistana et sinon j'ai travaillé un peu dans le décor. Donc je suis assez manuel, si on peut dire.
Moi, c'est Coralie. J'étais dans la même promo que Rémi au Beaux-Arts, on a fait les Beaux-Arts ensemble. Et on travaille sur cette étude depuis 4 ans. Et j'ai fait un peu d'assistante d'artiste après aussi. Mais là, maintenant, je me suis lancée dans l'horticulture.
Et pour vous, Sais-tu, c'est quoi?
C'est des copains qui nous ont invités à venir travailler avec eux.
Ouais, c'est des copains. Et puis, pour moi aussi, c'était un peu un événement étrange au départ parce que c'était un événement juste sur la performance. Et... J'ai jamais apprécié la performance aux Beaux-Arts parce que c'était pas enseigné de manière très, très joyeuse, en tout cas la performance. Et donc je m'y suis jamais intéressé et en fait je me suis dit que c'était peut-être un moyen de s'ouvrir à ça en venant à Sais-tu et aussi pour travailler sur un projet collectif avec des amis.
Parce que Sais-tu, c'est aussi une histoire d'amitié, voilà. Morgane Besnard et Marie Lourse sont d'abord deux amies, et avec d'autres amies, elles créent le festival Sais-tu. L'amitié, c'est un nœud fait de souplesse. Il se serre, puis se détend. L'amitié exige présence, et pourtant, persiste, même quand l'autre n'est pas là. On est liés, Sais-tu, on est amis, voilà. Et l'on coulisse à plusieurs, Sais-tu, voilà. L'amitié est discrète. Elle ne s'annonce pas, ne se déclare pas, mais elle se partage et grandit au fil des années sans bruit. C'est grâce à cette force tranquille que Sais-tu continue.
Beaux-Arts de Quimper, en fait, la performance est assez austère et c'est enseigné que sur un certain axe qui est très théorique, mais théorique exclusif. Et nous, d'ailleurs, ils étaient surnommés la secte à l'école.
Ah oui.
Ouais. Donc la performance, elle avait très mauvaise presse. Et en fait, on a une copine qui est partie au Beaux-Arts de Toulouse qui s'est mise à faire de la performance une fois là-bas, en 4e et 5e année. Donc on s'est rendu compte que la performance, ça pouvait être rigolo. Et après, on a rencontré Marie et Morgane en travaillant avec elles. Et en fait, elles étaient au Beaux-Arts aussi. Enfin, au Beaux-Arts de Quimper, mais avant que nous, on y soit. Et donc, on est devenus copains et elles nous ont parlé de ces tues. Et comme on les aime bien et qu'elles sont un peu marrantes et tout, on s'est dit que ce serait peut-être un autre moyen de découvrir la performance.
La performance, la performance. On s'y perd tellement c'est vaste. Je vous propose, pour nous aider un peu, la lecture d'un bout de la conclusion du livre « La performance du futurisme à nos jours » de la chercheuse Roselée Goldberg et lue par Guillaume Pellet.
L'augmentation exponentielle du nombre d'artistes créant des performances dans presque tous les pays, les multiples livres et cours universitaires sur le sujet, et le nombre de musées d'art contemporain proposant toute l'année des performances live, montrent que la performance est aujourd'hui un moteur de l'art, comme lorsque les futuristes italiens l'utilisèrent pour capter la vitesse et l'énergie du nouveau XXe siècle. L'art de la performance reflète aujourd'hui le rythme effréné de l'industrie de la communication, mais c'est aussi un antidote fondamental contre la distanciation induite par la technologie, car c'est la présence même de l'artiste en temps réel, du performé en chair et en os arrêtant le temps, qui confère à ce médium sa position centrale. À vrai dire, sa dimension vivante explique aussi qu'il plaise au public qui s'intéresse à l'art moderne dans les nouveaux musées, où le contact avec les artistes proprement dit est tout autant recherché que la contemplation de l'œuvre d'art. Le terme performance est devenu une expression fourre-tout, permettant de désigner toutes sortes d'événements, de l'installation interactive dans un musée au défilé de mode conçu avec originalité, en passant par la prestation d'un DJ dans une boîte de nuit ou la convention d'un parti politique. Ce qui oblige tant les spectateurs que les critiques à déterminer chaque fois la stratégie conceptuelle sous-jacente, de manière à voir si l'œuvre relève de la performance ou plus généralement de la culture populaire.
Et qu'est-ce que vous faites exactement sur le festival ? La régie du site.
On assiste le régisseur général et donc
Thomas
on fait des toute une partie logistique, aménagement du site et puis quelquefois assistanat d'artistes aussi pour par rapport à des installations in situ qu'il faudrait créer sur place.
Ouais, comme c'est dans une ferme parfois il y a pas les infrastructures pour accueillir un décor ou un fond de scène ou des choses comme ça, donc ça nous on se charge de les fabriquer. Et après on se charge de faire que le site soit accueillant, dans le sens signalétique, enfin préparer une signalétique, créer des espaces pour que les gens puissent se réunir, se mettre au chaud, se mettre à l'abri de la pluie, tout ça.
Et est-ce que sur les 4 ans vous avez travaillé à cette tuile, une performance en particulier qui vous a beaucoup touché?
Plusieurs.
Une seule.
Peut-être vous pouvez chacun en raconter une.
Moi, je pense que c'était sûrement. Enfin, ça me revient comme ça, mais ça devait être la performance de Katharina Andréou.
Ouais.
Donc c'était une personne qui montait sur 2 praticables et qui vissait des vis dans les praticables et ça, il y avait une réverb à chaque coup de perceuse et ça lançait un tempo qui après partait en musique Geber et donc elle dansait sur ce rythme très rapide et puis après il y avait une deuxième partie où elle montait à une corde et elle faisait une chorégraphie sur la corde. Et c'était très fort dans le sens où c'était très bien maîtrisé, mais en même temps très. Ça se déroulait très bien et c'était dans un lieu assez beau. Enfin, il y avait une belle mise en scène et c'était assez marquant.
Impressionnante physiquement, elle était hyper impressionnante quoi. C'était, enfin, son corps était tellement tendu, ça nous avait tous un peu scotché quoi. C'est vrai que ça fait partie des performances un peu choc du festival. Il y avait eu celle de Anne-Lise Le Gac aussi, c'était pendant la deuxième édition, qui avait été vraiment... Enfin, ça, on en reparle souvent, quoi. Ça avait été un peu une espèce de... Enfin, elle était hyper pro, quoi, en fait. C'était super en place, son truc. Et puis, c'était vraiment un projet total, quoi. Du coup, ça avait vachement... Enfin, c'était assez bleu, enfin, impressionnant.
C'était le début de la performance ZB de Katerina Andreou, présentée en 2019 au festival.
Est-ce que vous êtes surpris chaque année par une nouvelle proposition ?
Moi, je suis toujours surpris parce que oui, il y a différentes approches de la performance. Il y a des performances qui vont être plutôt longues ou courtes ou très... très forte visuellement ou d'autres un peu borderline, mais à chaque fois je suis surpris par des gens qui arrivent à s'exprimer comme ça, parce que je sais que moi je j'y arriverai jamais, enfin ou je sais pas, en tout cas je me sens pas de faire ça, de la performance, mais...
Pourtant tu adores danser.
Pourtant j'adore danser, mais après... j'ai plein d'attitudes qui sont performatives, mais après je sais que je me vois pas me lancer là-dedans.
Et avant ça le rendait nerveux de regarder des gens faire de la performance. Ça le crispait.
Oui, en fait j'ai un...
C'est comme s'il se projetait dans l'autre et il arrivait pas à...
En fait, il y a un cap de, une espèce de cap de la du raté qui amène pour moi à la honte, et en fait ça me procure une gêne, et donc j'ai toujours eu peur de ça, et en fait c'est pour ça que je me suis toujours aussi brimé pour ne pas faire la performance, parce que c'est la peur de l'échec forcément, mais donc, j'ai jamais tenté. Mais c'est vrai qu'en fait, depuis les 4 ans, enfin 5 ans où on vient à CETU, il y a des années où ça me donne presque envie de tenter des choses. Comme cette année, là, avec la performance de l'autorétina, donc Tony. En fait, c'est des choses aussi que je trouve assez remarquables, deux fois par l'inventivité, par la maîtrise... la maîtrise musicale ou c'est un moyen d'expression qui est assez fort, et donc c'est quelque chose qui me fait du bien, quoi. Voilà.
Puis des fois c'est drôle aussi, parce que comme la semaine on est avec les artistes, mais comme nous on est dans la régie du site vraiment toute la semaine, parfois on sait quand des artistes ont besoin de nous pour fabriquer un truc pour leur performance. Du coup, on sait un peu à quoi va ressembler leur performance. Mais parfois, on ne sait pas du tout à quoi va ressembler leur performance. Du coup, c'est assez drôle parce qu'en fait, des fois, on ne s'attend vraiment pas à ça de la part de la personne avec qui on a mangé pendant une semaine et avec qui on a discuté. Et en fait, d'un coup, on passe à un truc complètement enfin un autre personnage quoi, enfin c'est, mais bon voilà, c'est aussi le truc de performer, c'est de parfois embrasser des costumes et des mais voilà.
Et performer tous les deux, ça vous a jamais ça a jamais tenté?
Je pense que ce serait compliqué.
Moi, je pense qu'on performe déjà assez tous les deux.
Ouais. Non, ouais. Ce serait très compliqué, je pense.
Pourquoi?
On a déjà un peu de mal à travailler.
On travaille déjà ensemble sur la réalisation de projets techniques et en fait déjà sur ce genre de projet c'est très compliqué.
Aussi donc, parce que t'as quand même beaucoup de mal à travailler avec d'autres gens.
J'ai du
de manière générale.
Non mais oui.
D'accord.
Ouais.
C'est pas toujours facile donc je pense pas que ça marche. Ouais.
À la différence de l'animal à la taille définie, en possession d'organes spécialisés internes et aptes à se déplacer pour rechercher sa nourriture, la plante, ancrée au sol par sa racine, qui la pourvoit en eau et en éléments minéraux, développe sur place sa végétation aérienne faite de tiges et rameaux, avec nœuds, entre-nœuds, bourgeons axillaires et feuilles. Sa reproduction étant assurée par des organes sexuels rassemblés en fleurs. Au niveau d'une jeune pousse élaborée par un méristème terminal, se met en place une succession d'unités de croissance, constituées chacune d'un entre-nœud et d'un nœud portant une feuille et un bourgeon axillaire. L'unité de croissance est dite phytomère, et la tige résultante est donc constituée d'une succession de phytomères qui en rythme l'élongation. À l'hétérotrophie de l'animal, aux organes internes, de taille déterminée et apte à se déplacer aisément, la plante fixée au sol, autotrophe, montre une croissance indéfinie et extériorise sans retenue une ample frondaison pour capter l'énergie lumineuse. Elle garantit, par son autotrophie, la vie animale sur Terre, régule le microclimat du lieu et, grâce à un système racinaire expert, se montre apte à rechercher l'eau dans la profondeur du sol et à doser ses intrants chimiques issus du sol. Et n'oublions pas que cette végétation joue un grand rôle dans la protection de l'environnement en abritant et nourrissant toutes sortes d'animaux tout en réduisant l'impact des feux. La plante, à l'extériorisme tourné vers la lumière, ne possède aucun organe interne vraiment spécialisé comme ceux des animaux. Et ces organes externes, essentiellement feuilles et fleurs, ne sont pas individuellement vitaux. Théophraste, fin analyste, avait déjà vu qu'à la différence de l'animal, la plante montre un nombre indéterminé de parties. Elle peut pousser de partout, puisqu'elle vit de partout. Et qu'un herbivore en vienne à manger toute une série de phytomères ne changera pas grand-chose au développement d'une plante. Celle-ci vit sans jamais cesser de grandir, malgré de partielles ablations dues à la taille ou aux prédateurs. Les arbres, en particulier, sont amenés à croître indéfiniment en réajustant sans cesse leurs pores et leurs limbes foliaires à l'orientation du rayonnement lumineux.
C'est Coralie qui nous propose cet extrait, tiré du livre « Plasticité et sensibilité des plantes » d'Albertini Louis. C'est un livre qu'elle étudie en ce moment dans sa formation en horticulture.
Et une dernière question, est-ce que tu imagines que l'horticulture c'est quelque chose que tu vas mêler à ta pratique ?
Il y en a plein qui me demandent ça, mais en fait non, enfin peut-être, hein, mais je le vois pas comme ça en fait. Je le vois plus comme quelque chose à côté. Parce que, en fait, je trouve ça un peu étouffant des fois d'être tout le temps. Enfin. On a eu, par exemple, après les Beaux-Arts, on a eu besoin de partir de la Bretagne parce qu'on trouvait ça étouffant, en fait, finalement, de voir tout le temps les mêmes gens. Non pas qu'on les aime pas, mais c'est juste. Bah, au bout d'un moment, ça devient un peu cyclique, quoi. Il y a toujours des choses qui reviennent. Voilà. Et en fait. C'était un peu pareil à chaque fois que j'étais avec des gens du milieu de l'art. Enfin, même on s'est fait la réflexion parce que tous les deux, on n'a jamais eu vraiment le désir d'être artiste après les Beaux-Arts. Par contre, on aime bien l'art, on aime bien participer à des projets artistiques, tout ça. Mais par exemple, on est assez cinéphiles et des fois, à une soirée, t'as une conversation avec des copains et ça parle d'art pendant 4 heures. Et en fait, nous, on a été voir aussi des films et on a envie de partager ça avec les gens. Et en fait, il n'y a personne qui s'intéresse à ça, qui va prendre la perche, quoi, pour se lancer dans une conversation là-dessus, ou sur la danse aussi. Enfin, Par exemple, avec, nous, ce qu'on a bien aimé avec Sétu aussi, c'est que ça nous a tiré vers un autre milieu, la danse, tu vois, qu'on connaissait pas du tout, qui était pas aux Beaux-Arts où on avait étudié, vu que, en fait, Sétu, on a commencé juste en finissant les Beaux-Arts, en fait, ça s'est enchaîné. Du coup, ça nous a un peu tiré vers un autre milieu de l'art aussi. Et en fait, l'horticulture, je vois ça aussi comme autre chose encore, et qui me permet de faire des va-et-vient aussi, parce qu'en fait, je trouve que l'art contemporain se regarde beaucoup trop, en fait. Mm-hmm. Et il regarde pas, enfin, regarde pas vraiment ce qui se passe autour. Ce qui est assez contradictoire, puisque normalement... Enfin, la plupart des artistes se présentent comme des témoins de leur temps, mais en fait, je trouve que... ça se regarde beaucoup trop, quoi. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de pratiques qui se ressemblent, et qu'en fait, il y a plus... Des fois, t'es plus... Enfin, c'est trop bien quand tu vas à une expo et que tu sors et que t'es trop heureux de ce que t'as vu et tout, mais en fait, finalement, après, au bout d'un moment que t'en fais beaucoup, des fois, tu vois trop de choses qui se reflètent, quoi. Mm-hmm. Et c'est un peu fatigant. Du coup... Ouais, voilà. Et aussi, je trouve que le monde de l'art, c'est très brillant. Et en fait, je crois que l'année dernière, j'ai fait une petite saturation et du coup, j'ai eu besoin d'aller vers un monde plus silencieux.
Trop bien.
Voilà.
On termine là-dessus. Mmh. C'est beau.
Un monde plus silencieux, alors que vous écoutez la techno dans la voiture.
En effet, Coralie et Rémi arrivent souvent dans leur voiture avec la musique à pleine balle. Parce que le silence, c'est celui-là aussi. Celui du son, de la musique, du rythme fort qui résonne puis s'oublie. Nos battements de cœur s'accélèrent, la danse nous entraîne. Les normes imposées, les commérages du monde de l'art, la galerie, la commémoration, l'institution, tous ces lieux sont bruyants. Rémi nous dit que sa musique, en A Mission the Clouds, est à écouter le soir avant d'aller se coucher. Elle s'écoute assez forte, surtout à partir de la 55e seconde. L'émission se termine. Merci à Rémi et Coralie pour cette interview réalisée le 30 août dernier lors de la 5e édition du festival et à toute l'équipe de CETU pour leur travail et la tenue de l'événement en temps de Covid. On se retrouve la prochaine fois pour la découverte d'un nouvel univers.